Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une affaire qui pue aujourd'hui. La disparition et le meurtre durant l'été 1990 d'un pasteur homosexuel et militant des minorités sexuelles qui s'appelait le pasteur Doucet. Il est emmené un soir par deux hommes qui semblent être des policiers et on retrouve son cadavre 3 mois plus tard en forêt de Rambouillet. Qui l'a tué? Vous verrez, on en a une idée, mais on n'a aucune certitude. En tout cas, on va découvrir à cette occasion les pratiques plus que contestables des renseignements généraux dans ces années-là. Voici l'histoire donc du pasteur Doucet que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Alors, que je vous explique d'abord de qui on parle. Joseph Doucet. À l'époque des faits, 1990, il a 45 ans. Il est né belge, mais il est naturalisé français depuis ses 27 ans. Il a été formé par les curés en Belgique, mais il s'est converti au protestantisme. Pas celui de l'église réformée, celui des églises américaines, baptistes, dont il est devenu pasteur. Et il a créé à Paris le Centre du Christ Libérateur qui accueille les minorités sexuelles. C'est-à-dire les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les travestis, les sadomasos et les pédophiles. Dans son église, il célèbre des parodies de mariage homo. Il appelle ça des bénédictions d'amour. Il est homosexuel, lui-même, et il l'assume publiquement, à la télé notamment.
Je suis chrétien pratiquant. Pour moi, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont l'essentiel dans ma vie. Mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France comme l'unique ecclésiastique sans doute de notre pays et qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur. Car je ne peux pas en conscience faire un choix. Pour moi, c'est impossible. C'est quelque chose d'essentiel de ma vie. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'essentiel de mon existence que je vais aussi communiquer aux autres. Mais ma tendance, mon orientation homosexuelle que je n'ai pas choisie est homosexuelle.
C'est cet homme-là qui, dans un instant, va disparaître dans d'étranges circonstances. On est au mois de juillet 1990. À l'époque, le pasteur Joseph Doucet habite rue Clairaut, dans le 17e arrondissement de Paris, avec son compagnon Guy Bondard. Et c'est lui, Guy Bondard, qui raconte la scène suivante. Un peu avant 20h, on sonne à la porte. Le pasteur va ouvrir, et il y a là deux hommes. Guy Bondard passe une tête et il voit l'un des hommes sortir quelque chose de sa poche et le présenter au pasteur comme on présenterait une carte de police. Mais de là où il est, il n'a pas bien vu et donc il n'est pas certain que c'était une carte de police. En tout cas, il entend l'homme dire à son compagnon « Monsieur Doucet, il va falloir nous suivre maintenant. » Et là, il voit le pasteur partir entre deux hommes.
« Vous pensez en avoir pour combien de temps ?»
Une demi-heure maximum. Ça sera pas long.
Mais une demi-heure plus tard, le pasteur n'est pas rentré. Et la nuit tombe. Et il n'est toujours pas là. Et Guy Bondard se couche inquiet. Le lendemain matin, Joseph n'a pas réapparu. Et donc il va au commissariat du 17e.
« Bonjour. Mon compagnon a disparu depuis hier soir. Il a suivi deux hommes, qui, je pense, travaillent pour vous. Vous pourriez m'aider à le retrouver ?»«
Mais vous ne croyez quand même pas qu'on va enquêter sur les amants de votre compagnon, hein ? On sait ce que c'est, ça couchaille dans votre milieu, n'est-ce pas, hein ? Finira par rentrer, votre chérie. »
Voilà, entre parenthèses, comment on accueille des homosexuels dans la police en 1990. Guy Bondard appelle alors l'avocate du pasteur, maître Geneviève Gèvre, en se disant « Elle aura plus de poids que moi ». l'avocate va consulter les registres de garde à vue. Aucune trace du pasteur Doucet. Alors elle dépose une plainte. Et comme Guy Bondard reste convaincu que les deux hommes étaient des flics, il saisit les Boeufs-Carottes, la police des polices, avec un argument de poids. Un mois plus tôt, jour pour jour, en pleine nuit, ils ont été réveillés par des policiers.
En pleine nuit, on a entendu tambouriner à la porte. Et quand je vous dis tambouriner, c'était carrément cogné sur la porte, hein, c'était violent. On a eu tellement peur qu'au départ, on n'a pas voulu ouvrir. Il faisait tellement de bruit que le voisin du dessus est sorti de chez lui avec une batte de baseball. Oui, oui, hein. Ça a failli se terminer en baston. Et les hommes qui étaient devant la porte, eh ben, ils nous ont finalement dit qu'ils étaient de la police.
Cette affaire sent le soufre. Pour quelle raison la police s'intéressait-elle au pasteur Doucet? Et est-il imaginable que des flics aient enlevé ce pasteur? Et si oui, pourquoi? En tout cas, si ça sort dans la presse, ça s'annonce croustillant. Et c'est là qu'intervient l'un de mes vieux camarades, Dominique Rizet. À l'époque, il a encore des cheveux et il est jeune journaliste à François. Et déjà, il vit 24-24 avec les flics. Il déjeune avec eux le midi, il dîne avec eux le soir, il les accompagne parfois jusqu'au bout de la nuit, dans les bistrots, les boîtes de nuit, et le week-end, il fait son footing avec eux. On n'en fait plus des gars comme lui. Et donc, comme Rizet a des potes partout dans la police, début août, il a un tuyau. Le pasteur Joseph Doucet a disparu. Je t'ai rien dit. En vérité, Rizet ne sait pas qui c'est. Et donc, comme on le fait à l'époque, il va à la DOC, la documentation de François, et il se fait sortir tout ce qui existe sur ce pasteur nommé Joseph Doucet. Et il découvre donc l'histoire de ce pasteur homosexuel militant des minorités sexuelles. Et au flair, il se dit « ça pue ». S'il a disparu, ça pue. Et donc, il commence à se rencarder auprès de ses potes flics. Et l'un d'entre eux, un gars du 36, lui en raconte une bien belle.
« Ton pasteur qui a disparu, là, eh ben il était filoché depuis pas mal de temps par les RG, figure-toi. Ouais, les collègues des renseignements généraux s'intéressaient à lui. À part ça, je t'ai rien dit, hein. On est d'accord. »
Incroyable confidence qui recoupe parfaitement le récit du compagnon du pasteur qui est absolument certain que ce sont des flics qui l'ont emmené et qui raconte que d'autres flics sont venus un mois plus tôt les réveiller en pleine nuit. Et donc que fait Dominique Rizet? Consciencieusement, il essaye de recouper son info. Il appelle le préfet de police, Verbrugge.
Ah mon Dominique, désolé, hein. Aucun commentaire sur ce dossier.
Il appelle le patron des renseignements généraux lui-même.
Ah, je ne peux rien vous dire là-dessus, Dominique, désolé.
Il veut alors rappeler le flic du 36 qui lui a filé le tuyau. Et là, il se dit, il y a un loup. D'habitude, tous ces gens-là me parlent. Ils ne me disent pas toute la vérité, mais ils me parlent. Là, ils ont l'air gênés. Ils ont l'air embarrassés. Décidément, ça pue. Et donc, il publie un premier papier dans François, dans lequel il raconte donc l'histoire d'un pasteur qui disparaît alors qu'il était filé depuis quelque temps par les renseignements généraux. Là-dessus, on commence à en apprendre un peu plus sur ce pasteur Doucet. Pour commencer, au moment où il disparaît, il n'est plus formellement pasteur de l'église baptiste. Il s'en est fait virer. Et au passage, il s'est aussi fait virer de sa loge maçonnique. Et oui, il était franc-maçon. Et pourquoi donc s'est-il fait virer? Eh bien, parce qu'il y a un truc pas net. chez lui. Il prétend s'occuper de toutes les minorités sexuelles. Les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les sadomasos et les pédophiles. À égalité. Il organise des groupes de parole de pédophiles. Et il accueille aussi des condamnés en réinsertion. Il intervient en tant que psychologue ou sexologue. Il a d'ailleurs rédigé un ouvrage collectif qui s'appelle « La pédophilie en question », qu'il a édité lui-même dans sa maison d'édition « Autre culture ». La lecture de ce livre est consternante. Le mec n'est pas net du tout. Il développe des thèses scabreuses, selon lesquelles, par exemple, des pères coucheraient avec leurs enfants à leur demande, parce qu'ils y prennent du plaisir. Pire que ça, il veut dépénaliser toutes les sexualités, y compris la pédophilie. Il est allé voir des députés, des sénateurs et même des ministres pour tenter de les convaincre de voter une loi en ce sens. Dépénaliser la pédophilie. Quand je vous disais qu'il n'était pas net. Et avec ça, un égo, un goût pour les caméras de télévision, pour les plateaux, pour les micros, une mise en scène de lui-même, extrêmement gênant. Le pasteur s'aime beaucoup. Voilà pour le portrait. Et là, on commence à comprendre pourquoi les renseignements généraux lui tournaient autour. Le pasteur est sulfureux. Mais ça n'explique pas sa disparition. Si les deux types qui l'emmènent sont des policiers des RG, qu'en ont-ils fait? Ils ne l'ont pas placé en garde à vue. Ils ne l'ont pas déféré au parquet. Il n'y a pas de trace du pasteur Doucet, ni auprès de la justice, ni auprès de la police. En revanche, il y a des rumeurs. Il savait des trucs. Il pouvait faire tomber des gens haut placés, des ministres peut-être. Des ministres qui aiment les garçons. Voilà ce qu'on dit, sans aucune preuve. Mais le vide d'explication favorise la théorie du complot. Il savait des choses. On a eu peur qu'il les balance, ou mieux qu'il les monnaie pour faire avancer sa cause. Alors on l'a liquidé. Mais enfin, on ne peut pas imaginer que les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris aient participé à ça. Qu'ils l'aient suivi, qu'ils aient enquêté sur lui, ça paraît normal. Qu'ils l'aient enlevé, et dès lors sans doute liquidé, c'est impensable. En attendant, une plainte a été déposée, une instruction a été ouverte, alors qu'est-ce que ça donne? Une première confirmation, les renseignements généraux surveillaient bien le pasteur Doucet, et notamment les réunions de pédophiles qui ont lieu le dimanche après-midi. Et cette surveillance s'est intensifiée dans les deux mois qui précèdent sa disparition. Les RG se planquent dans l'épicerie en face du centre du Christ libérateur, et ils shootent au téléobjectif tous ceux qui rentrent. Et ils identifient au passage un prêtre défroqué, condamné pour pédophilie en 1981, et un employé des PTT bien connu pour ses liens avec des réseaux pédophiles. Et ce faisant, les RG font un peu de zèle. Ils vont un peu plus loin que leur mission de renseignement, mais ça correspond à la politique des RG à cette époque-là, livrer à la police judiciaire des dossiers bien ficelés. Clé en main. On apprend aussi par l'enquête que la librairie du pasteur Doucet a été mise sur écoute par les renseignements généraux. Je ne vous ai pas encore parlé de cette librairie. Vous allez vite comprendre pourquoi les RG s'y intéressent. On y vend toutes sortes de livres, et notamment ce qu'édite le pasteur. Mais on y vend aussi une revue qui s'appelle Gay France, dont la spécialité est de mettre à la une des photos de jeunes garçons à peine pubères, mineurs à tous les coups, et même mineurs sexuels, 14-15 ans, quoi. Et quand on feuillette cette revue, il y a autre chose de très dérangeant. Les gamins sont blonds, et les idées, nazies. La revue Gay France mélange pédophilie et néo-nazisme. Et le pasteur Doucet la diffuse tranquillement. On comprend que les renseignements généraux se soient intéressés à lui de près. Et on apprend que sous l'autorité du patron des RG, Claude Bardon, 4 policiers des RG étaient affectés à la surveillance de Doucet, chapeautés par un inspecteur qui s'appelle Jean-Marc Dufour. Et on les fait venir, ces 4-là, dont Dufour, on les place derrière une vitre sans teint, et on demande au compagnon du pasteur, Guy Bondard, s'il en reconnaît un. Là, lui là, lui c'est l'un des policiers qui a frappé à notre porte dans la nuit du 19 juin, je me souviens. Et il vient de désigner l'inspecteur Jean-Marc Dufour. Le juge d'instruction se tourne alors vers l'inspecteur. Monsieur Dufour, vous êtes vraiment allé cette nuit-là tambouriner à la porte du pasteur Doucet ? Oui, je le reconnais. Et on apprend que ce soir-là, le pasteur Doucet et son compagnon appellent le commissariat, tellement ils ont peur. Et 2 policiers en tenue débarquent. Et ils racontent que Jean-Marc Dufour et son collègue ont sorti des cartes de police en disant « Nous sommes la police secrète ». Ce qui n'est pas faux, figurez-vous. Car Dufour et ses hommes appartiennent à une section un peu secrète des renseignements généraux. Le GER, le groupe Enquête et Recherche. Il y en aurait dans toutes les régions de France une police secrète qui ne va pas au rapport, comme on dit, qui travaille sans notes et qui rend compte à sa hiérarchie à l'oral et rien qu'à l'oral. Je vous parle de 1990, hein, pas du Moyen-Âge. La question maintenant, c'est, est-ce que Dufour et ses sbires ont pu enlever le pasteur? Et par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient le 19 juillet, jour de sa disparition? Eh bien, ils étaient dans le quartier, figurez-vous. En fin de journée, ils avaient rendez-vous avec l'un de leurs indiques dans un café, le Voltigeur, à 2 pas de la librairie du pasteur. Question du juge d'instruction à Jean-Marc Dufour.
Monsieur Dufour, par hasard, après votre rendez-vous avec votre indicateur, vous ne seriez pas resté dans le quartier?
Ah non, hein. Ensuite, on a tracé dans le Val-de-Marne sur une affaire de dealer.
On vérifie auprès de l'un de ses indiques dans le Val-de-Marne. Le type est formel. Il ne les a pas vus le 19 juillet au soir.
Aïe, c'est fâcheux. Mais Dufour a une explication.
Si on nous a pas vus sur place... C'est parce qu'on était bien cachés, c'est tout.
Et dans la soirée qui a suivi, monsieur Dufour, la nuit du 19 au 20, vous étiez où?
Ah, monsieur le juge, on est sorti, on a fait une petite virée à Pigalle.
Pigalle. On ne peut pas faire moins discret. Et ils ne mentent pas, ils ont débarqué à Pigalle vers 23h30. Et ils ont fait la tournée des grands-ducs, en faisant bien attention à ce que tout le monde les voit. Une dernière chose qu'on apprend sur l'inspecteur Dufour. Ça se passe un mois avant la disparition du pasteur. Dufour veut forcer un homme, un certain Pierre Didier, à infiltrer le groupe de pédophiles du pasteur. Le type refuse. Eh bien, vous savez ce que fait Dufour? Il tire une balle à travers sa porte pour l'intimider. Méthode de cow-boy. Et terrifié, Pierre Didier veut se suicider. Il s'ouvre les veines. Il est sauvé par des voisins. Voilà qui est l'inspecteur des RG, Jean-Marc Dufour, qui, dès cette révélation, est évidemment arrêté et envoyé en prison. Mais où est passé le pasteur Doucet ?
Jean-Marc Dufour est maintenant en prison pour avoir tiré cette balle à travers la porte de ce Pierre Didier. Mais rassurez-vous, avant de partir, il a bien nettoyé son bureau. Les policiers du 36 ne retrouvent pas son carnet d'adresse. C'est ballot. Et pour se défendre, il a embauché le plus sulfureux des avocats, Maître Vergès. Et 2 mois après la disparition du pasteur, Dufour est sorti de prison et interrogé par la juge. L'interrogatoire dure 11 heures et il s'amuse à brouiller les pistes.
Voyez-vous, madame la juge, je peux vous donner 3 noms de personnalités célèbres qu'on m'a demandé de compromettre. Et puis la prochaine fois que vous m'interrogerez, je vous en donnerai 3 autres. Et la fois suivante, c'est vous qui serez plus là, madame la juge. Vous aurez été remplacée.
Manière de dire à la juge, je suis plus fort que vous. Et il donne effectivement 3 noms. Le nom d'un ministre, le nom d'un avocat célèbre et le nom d'un haut responsable de la télévision publique. Il dit qu'il a reçu ordre de les mouiller dans les réseaux pédophiles du pasteur Doucet, en glissant dans leur lit un jeune adolescent mineur. Mais il dit autre chose. Il prétend que le pasteur n'a pas été enlevé, que c'est une invention, qu'il a procédé à des écoutes le lendemain de sa disparition.
Et vous savez ce que j'ai entendu dans ces écoutes? Eh bien, j'ai entendu Guy Bondard, son compagnon, dire « Le pasteur est à la librairie ». Il n'a pas été enlevé, le pasteur.
Et voilà sa théorie. Le pasteur Doucet connaissait des personnalités qui aimaient les petits garçons. Le fameux ministre, le directeur de la télé, l'avocat. Alors il les faisait chanter. Et l'Élysée l'a fait taire. Et maintenant, on lui fait porter le chapeau à lui. Avouez que c'est séduisant, comme toutes les théories du complot. Quoi qu'il en soit, après 15 jours de détention, Jean-Marc Dufour est relâché. Et là, croyez-vous qu'il va se cacher? Pas du tout! Il va pavaner à la télévision, notamment chez Christophe de Chavannes sur TF1, où il continue de répandre son écran de fumée. Alors maintenant, soyons clairs. Les accusations de Dufour contre cet avocat, contre ce ministre, contre ce directeur de la télé, dont les noms ont été balancés par les journaux à l'époque, étaient bidons. C'est un écran de fumée. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire de la disparition du pasteur. Et là-dessus, 3 mois après, on va faire un bond. Un cueilleur de champignons tombe sur un cadavre en forêt de Rambouillet, totalement décomposé. 15 kilos d'ossements et de chair putréfiée. Et on identifie ce cadavre grâce à sa dentition. C'est le cadavre du pasteur. De quoi est-il mort? Difficile à dire. Le légiste pense qu'il a pu mourir étranglé, mais sans aucune certitude. Est-ce qu'il a été tué là, dans le bois? Est-ce que c'est un interrogatoire qui a mal tourné et qu'on s'est débarrassé du corps? Allez savoir. En tout cas, ça n'est plus une affaire de disparition. C'est un assassinat. L'inspecteur Dufour et ses hommes en sont-ils les auteurs? Dufour maintient que non.
S'il s'avère que la cause du décès soit violente, je souhaite bien évidemment que les auteurs soient rapidement identifiés, afin que mes collègues et moi-même soyons totalement mis hors de cause dans cette affaire qui dure depuis 3 mois.
En attendant, la police aimerait bien se débarrasser de cet encombrant policier. Et donc, Dufour est convoqué au tourniquet, comme on dit, c'est-à-dire devant le conseil de discipline. On lui reproche le tapage du 19 juin devant la porte du pasteur, la balle tirée à travers la porte de Pierre Didier, et globalement ses manquements au devoir de réserve depuis qu'il donne interview sur interview. Eh bien, il refuse de comparaître, figurez-vous. Il est dans sa logique. Il dit qu'il a agi sur ordre. Il a demandé au patron des RG d'assumer, de le protéger, de le défendre. L'autre a refusé. Eh bien, lui refuse de comparaître devant le conseil de discipline. Peu importe, il est révoqué. Il est fichu dehors de la police et ses deux équipiers sont suspendus pour plusieurs mois. Mais ça n'est qu'une sanction administrative. Et sur le plan pénal, alors, Jean-Marc Dufour va-t-il être inculpé pour l'enlèvement et l'assassinat du pasteur Doucet? Pour l'instant, il ne l'est pas. Hein. Et pourtant, son avocat lui-même le réclame pour avoir accès au dossier. Pas de réponse de la juge? Étrange. Certes, il n'y a pas d'élément incontestable dans ce dossier. De preuve irréfutable que Dufour est mêlé au meurtre. Mais il y a tout de même un faisceau d'éléments suffisant pour l'inculper. Eh bien non, il n'y a pas de preuve, la juge n'y va pas. Et donc l'enquête s'enlise doucement, jusqu'à tomber dans l'oubli. En 1995, en pleine campagne présidentielle, on croit à un rebondissement. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, déclare
« Le pasteur Doucet a été enlevé par des inspecteurs de police des renseignements généraux. Il a disparu. Tout cela a été couvert par le gouvernement socialiste. »
On se dit là que Pasqua sait des choses, que ça va sortir. Et puis non. Jacques Chirac est élu président, Pasqua reste à l'intérieur, mais ça ne sort pas. Et ça n'ira pas plus loin. Le patron des renseignements généraux sera limogé, le préfet de police mis à la retraite. Et voilà! Ah, il y a bien eu un procès en correctionnel en février 1998, mais sur des broutilles.
Un ancien préfet de police, un ancien patron des renseignements généraux et l'un de ses inspecteurs passent en correctionnel. Ils doivent expliquer pourquoi ils avaient placé sous surveillance le pasteur Joseph Doucet, défenseur des minorités sexuelles, dont la mort il y a plus de 7 ans est toujours inexpliquée, Dominique Paganelli.
Quel imbroglio, quel méli-mélo cette audience à la 17e chambre correctionnelle. C'est d'abord l'ancien inspecteur Dufour, bien campé sur ses jambes comme en position de tir, les bras croisés sur la poitrine, qui avoue sans ciller... Oui, les notes internes que je rédigeais à mes supérieurs sur la surveillance du pasteur Doucet sont des faux. Ils sont antidatés, ne correspondent pas vraiment à l'objet de la surveillance, mais cela n'a pas d'importance, je n'ai pas été sanctionné par ma hiérarchie.
À l'issue de ce procès, le patron des RG et le préfet de police sont relaxés, et Jean-Marc Dufour est condamné pour faux en écriture privée et usage à 8 mois de prison avec sursis. Mais il fait appel et en l'an 2000, il est lui aussi relaxé. Et voilà, fermé le banc. L'assassinat du pasteur Doucet est aujourd'hui une affaire prescrite. On peut donc rêver que pour l'histoire, quelqu'un dise un jour la vérité. On peut rêver.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.